bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette conférence qui est dédiée à la diversité des micro-organismes dans l'océan. Donc avec moi se trouve Lucie Bittner. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous appartenez à la fondation, enfin vous appartenez, vous faites partie de la fondation Tara Océan. J'insiste sur une chose, cette association est la seule fondation reconnue d'utilité publique en France pour l'océan. Donc je crois que vous vous dirigez dans deux directions en particulier. Vous avez un volet éducatif, de partage de la connaissance, et un autre qui est consacré à la recherche. Vous menez d'ailleurs actuellement trois missions de recherche, une sur la biodiversité, une autre sur le climat, et une dernière sur l'océan Arctique.
Tout à fait. C'est parfait.
C'est parfait. Alors Lucie, vous allez nous guider dans cette plongée au cœur de l'infiniment petit qui se niche dans le grand bleu. C'est à vous.
Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici pour la fête de la science. C'est vraiment des événements que j'adore. Et donc, je vais vous parler donc du plancton, de la Fondation Tara Océan et des recherches qu'on y mène. Alors moi, plus précisément, je suis professeure à l'université et je travaille avec la Fondation Tara depuis plusieurs années. Et la Fondation Tara m'a permis en fait de mener des recherches, on va dire, tout autour du monde, et je vais vous le montrer. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un tout petit peu du plancton. Peut-être que vous avez toute une petite notion sur ce que c'est. Alors pour cela, pour l'illustrer en fait, je vous ai mis ici une photo. Alors sur cette photo, vous avez des organismes que vous connaissez déjà. Alors le plancton, ça va être... Alors aussi étymologiquement, pardon, le plancton, c'est tout ce qui vit dans la colonne d'eau et qui ne peut pas nager à l'encontre des courants. Ça, c'est la définition. Et ensuite, il va y avoir donc des micro-organismes, d'organismes, dont beaucoup de micro-organismes. Des micro-organismes, c'est ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ça, c'est ceux que vous connaissez moins bien, mais au moins ceux que vous connaissez dans le plancton. Ça va être des méduses, ça va être des petites crevettes, ça va être des petites larves de poissons. Ça, c'est ce que vous connaissez à peu près dans le plancton. Mais la majorité du plancton, ça va être des choses invisibles à l'œil nu, mais qui sont magnifiques. Comme représenté ici sur cette image, ça va être des organismes qui sont inférieurs au millimètre, on est vraiment de l'ordre du micron, et ça va être des micro-organismes d'une diversité qui va être énorme. Alors le plancton, grosso modo, ce qu'on en retient d'habitude de l'école, c'est que c'est à la base de la chaîne alimentaire, dans les océans, mais aussi de manière globale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tout petits qui vont se faire manger par des un peu plus gros, et dans les plus gros, vous connaissez les requins, les baleines, etc. Blablabla. Mais nous, on s'intéresse à ce qui est tout petit. Et dans ce qui est tout petit, pourquoi c'est important d'aller regarder ces petits microbes? C'est que beaucoup de ces microbes vont fournir en fait l'oxygène que l'on va respirer. On pense souvent que l'oxygène, on le doit aux plantes terrestres. Alors c'est vrai. Ils nous produisent en fait 50% de l'oxygène qui est dans l'atmosphère et qui est sur Terre, en général. Mais la deuxième moitié de l'oxygène qu'on va trouver autour de nous, qui va donc nous servir, il est fourni par des microbes, des micro-organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, comme les plantes qui nous entourent sur Terre. Donc c'est très important de les connaître, on en connaît finalement très peu, de savoir où ils habitent, de savoir comment est-ce qu'ils vont produire cet oxygène et à la fois fixer ce carbone, parce que c'est comme la photosynthèse des plantes, on produit de l'oxygène, mais on fixe le carbone ambiant, donc évidemment ça va nous intéresser. Et donc c'est pour ça que, notamment dans le cadre de la Fondation Tara, il y a eu plusieurs expéditions pour faire le tour du monde, pour aller explorer les océans, pour savoir qui sont ces acteurs qui nous impactent finalement dans la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, on parle d'émotion. C'est une session émotion. Et souvent, dans les fêtes de la science, j'aime bien raconter... maintenant, je suis professeure à l'université, j'enseigne la biologie, par exemple. Qu'est-ce qui m'a poussée vers là? Forcément, c'est de l'émotion. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à des micro-organismes je trouve magnifiques parce qu'ils vont être de plein de couleurs différentes, avec des iridescences différentes, des formes qu'on n'aurait pas imaginées, en fait. Quand j'étais petite, je suis venue dans... Alors, la fête de la science a 30 ans, moi, j'ai un peu plus de 30 ans. Je ne suis pas allée dans beaucoup de fêtes de la science, mais dès qu'il y avait des animations scientifiques, j'y suis allée. J'ai été sensibilisée à ça assez tôt. Et il y avait une émission, je me rappelle, qui s'appelait L'aventure des plantes. C'était des explorateurs qui allaient au bout du monde et qui grimpaient au sommet des arbres et des forêts tropicales et équatoriales. Et je trouvais ça incroyable de pouvoir voyager pour décrire la diversité des nouvelles espèces, par exemple. Alors moi, c'est vraiment... ça a commencé par ça. Et j'ai eu beaucoup de chance durant mes études. Au fur et à mesure, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle notamment l'expédition Tara Océan, qui a eu lieu de 2009 à 2012, qui a un peu dérivé sur 2013, mais qui depuis continue. Et donc, c'est des expéditions pour faire le tour du monde. Et donc, je vous disais, pour étudier les microbes de l'océan. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que par exemple, ce genre de photos qui font rêver, vous me croyez pas. Mais en tout cas, sur cette photo qui a été prise par Yana Turs-Bertrand, en fait, au Belize, ça s'appelle le trou bleu, le Blue Hole, qui est un spot très connu pour la plongée, bref. Vous voyez ici, en fait, il y a deux petits zodiacs qui sont représentés. Moi, je suis sur l'un des deux. Et je peux vous dire que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça, en tout cas. Mais pouvoir voyager, découvrir le monde, ça, forcément, ça motive énormément. Et voyager pour quelque chose qui me passionne, parce que moi, ce qui me passionne, c'est étudier la diversité et l'évolution de tous ces micro-organismes. C'est une grande chance. Donc ça, c'est... Alors, j'ai quelques photos que je vais vous montrer. Voilà, forcément, c'est des souvenirs. Alors, il y a des souvenirs de paysages magnifiques. Il y a l'émotion de la découverte et de la nature autour de nous, évidemment. Ça va être pouvoir observer des paysages de la sorte. La mer, on a l'impression que c'est... Enfin, je ne sais pas si vous allez souvent à la mer ou pas, mais on imagine, c'est bleu, c'est plat. Non, mais c'est autre chose. C'est 10 000 couleurs. Ça va être des variations justement de bleu translucide. Ça va être des ciels qui peuvent être chargés, qui peuvent être gris. Ça va être des eaux qui vont être plus chargées. Par contre, là, elles sont plus chargées en terre. Elles sont plus chargées aussi en micro-organismes. Et des horizons magnifiques et des rencontres, comme on peut voir par exemple sur ce paquebot plus loin. Moi, personnellement, j'en avais vu qu'en vidéo. Là, j'ai pu les voir en vrai. Donc la science, c'est aussi une grande chance de pouvoir partir sur le terrain et de rencontrer et de voir, de sortir de son petit ordinaire. Enfin, on va dire ça d'une certaine manière. Alors, comme on parle d'émotions, toujours, les émotions, quand on part sur le terrain pour aller échantillonner, c'est s'adapter aussi. Alors, quand on part sur Tara, par exemple, Tara, le bateau Tara, c'est un bateau incroyable, il a plus de 30 ans. Il a été construit pour l'exploration polaire d'abord, mais il est très maniable pour aller sur tous les océans et pour échantillonner partout. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de la science, on essaie d'échantillonner donc, les microbes, mais les conditions ne sont pas toujours bonnes. Alors, sur le papier, tout est bien, normalement, on échantillonne pendant 48 heures ou pendant 3 jours, et tout va bien, et tout se passe bien du début à la fin. Mais parfois, ou très souvent, je vais dire plutôt, on va se faire rattraper par la réalité des choses, qui est par exemple la fenêtre météo dans laquelle on voulait faire un échantillonnage, va se rétrécir au fur et à mesure, parce qu'il y a des tempêtes qui arrivent. Et donc là, une des plus grandes émotions que j'ai eues, parce que moi, je ne fais pas de la voile au départ. Je suis partie donc sur ce voilier, mais j'ai pas fait de voile avant. Mais c'est qu'on a eu une tempête. Alors, est-ce que vous savez, imaginez où se trouve ce paysage?
Est-ce que... Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est au beau milieu de l'océan Atlantique. Je la tente.
C'est pas mal. On est plutôt au sud, de l'Atlantique. On va se trouver dans la zone, on n'est pas très loin des côtes de l'Argentine. Et en fait, c'est une zone qui est extrêmement connue pour les tempêtes quand même. Et donc, on a dû arrêter l'échantillonnage, évidemment. On savait qu'il y avait une tempête qui allait arriver. Et donc, c'est un souvenir assez particulier de se retrouver dans 15 enfermés dans le bateau.
C'est un bateau qui fait quelle dimension?
Alors, si je dis pas de bêtises, il fait 36 mètres. C'est une goélette, donc on essaie de naviguer le plus possible, de ne pas utiliser le moteur et de naviguer plutôt à la voile. Et on s'acclimate. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce type de projet, moi, ce que j'ai adoré, c'est donc la moitié de l'équipage, donc il y a 15 personnes à bord, la moitié de l'équipage, ça va être des marins, mais il va y avoir un chef, donc un capitaine, il va y avoir un second, il va y avoir quelqu'un qui va faire office de médecin quand même, il va y avoir quelqu'un qui va faire la cuisine. Et il y a toujours aussi un journaliste ou une journaliste embarquée et un artiste ou une artiste. Ça, c'est extrêmement enrichissant, en fait, pour cette aventure, en tout cas. Et le reste, ça va être des scientifiques, mais des scientifiques qui vont avoir différents profils. Il va y avoir des personnes qui sont plus ingénieurs, qui vont savoir faire fonctionner les machines et les instruments pour faire les prélèvements. Il va y avoir des personnes comme moi qui sont plus à aller échantillonner vraiment le petit plancton et ensuite à le mettre dans des petits tubes et tout. Donc vraiment le scientifique avec les lunettes et la blouse blanche, on va dire, etc. Donc c'est un mix de tout ça. Et quand on est à bord, on travaille tous, mais on se mélange tous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des... Les scientifiques peuvent participer au quart. Les marins, ils vont nous aider à faire les prélèvements. On partage tous, on fait tous des tâches ménagères aussi. Ça, c'est des choses assez intéressantes. En tout cas, cette aventure ou ces aventures, ces expéditions ont été construites vraiment pour que les gens, on va dire, de différents backgrounds, enfin, ouais, voilà, vont vraiment se croiser et travailler ensemble dans un même but. Faire des échantillonnages et aussi, à chaque fois qu'on était en escale, la grande richesse, c'était qu'on accueillait donc des classes à bord, notamment, pour pouvoir aussi participer à l'éducation d'une certaine manière et à faire passer des messages sur la préservation des océans et leur exploration en général.
Cette expédition a duré combien de temps ?
Alors celle-ci, moi j'ai participé, c'était 2009 à 2013, mais il y a eu une autre expédition avant qui consistait à une dérive. Maintenant en ce moment c'est Tara Microbiome qui a un tracé un petit peu différent mais qui va reprendre des protocoles en fait qui sont assez similaires. Avant il y a eu Tara Pacifique qui s'est intéressée plutôt aux écosystèmes coralliens dans le Pacifique Sud. Il y a eu Tara Méditerranée qui s'intéressait notamment aussi aux microplastiques. Il y a un impact, en fait, la pollution qui est partout. Par contre, les microplastiques, à chaque fois qu'on fait des prélèvements, partout sur le globe, même dans des eaux polaires qui sont très éloignées des côtes, où on est dans des densités de population. Par exemple, sur les côtes argentines, la population, elle est très, très, très faible. On va dire, plus on se rapproche d'Ushuaïa, et on trouvait quand même des microplastiques dans nos prélèvements.
Je crois qu'on estime à peu près 3% aujourd'hui la surface des océans, donc on pourrait assimiler à des surfaces vierges. Je crois que ça va pas au-delà de ça.
Ouais, c'est optimiste, j'aurais dit, mais oui, c'est bien possible. Non, c'est assez malheureusement l'impact en fait et de l'homme est malheureusement partout sur tous les océans. Je vous montre juste quelques images. Ça fait un peu genre mes photos de vacances, mais non, c'était du travail. Où je vous montre les. Ça, c'était justement sur Tara Océan, dont je vous ai parlé juste avant, qui a eu lieu de 2009 à 2013. Et donc.
Alors, ce qu'on voit là à l'écran, c'est tous les trajets que le bateau a effectués.
C'est le trajet unique. D'une expédition.
D'accord.
Le trajet d'une expédition. Et en fait, maintenant, la mission Microbiome, elle fait un autre trajet. Elle repasse par des endroits similaires, mais elle va explorer aussi d'autres endroits. Et ce qui est très avantageux avec ce type de bateau comme Tara, c'est que c'est un bateau extrêmement maniable. C'est pas un bateau comme on utilise en général pour les campagnes océanographiques, qui est très gros, qui est très lourd, qui coûte très cher, qui pollue plus aussi, mais qui mobilise 40 scientifiques en même temps. Là, on va avoir 7 scientifiques en même temps, mais c'est beaucoup plus maniable et ça peut aller dans beaucoup plus d'endroits pendant plus longtemps et pour un peu moins cher. Donc ça nous intéresse aussi, point de vue de la science. Et donc là, c'est un type de trajet qu'on a fait. On essaie d'aller dans le plus d'écosystèmes océaniques différents. Il y a des écosystèmes en fait qui sont plus ou moins impactés. Il y en a qui sont déjà qui ont un pH plus acide, il y en a qui sont déjà plus chauds, il y en a par contre qui sont plus froids, il y en a qui vont avoir déjà moins d'oxygène. Donc c'est vraiment des écosystèmes. On pense que l'océan c'est très homogène. Non, l'océan c'est vraiment structuré. Il y a des régions différentes et donc des espèces différentes en fait qui y vivent et qui y sont adaptées.
Je me permets juste une petite question. Vous l'avez évoqué en tout début de conférence, vous parliez des micro-organismes, notamment du plancton. Moi, la question que je me pose, c'est à quel point le réchauffement climatique aujourd'hui a un impact sur cette catégorie du vivant océanique ?
Alors, ça a un impact énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos actions impactent l'ensemble des écosystèmes qui nous entourent et dont l'océan. Alors, ce qui impacte le plus les océans, en général, ça va être l'augmentation de la température au niveau planétaire, les océans, la température augmente aussi. Il y a plus de carbone dans l'atmosphère et par diffusion plus de carbone dans les océans, ce qui fait qu'il va y avoir un déplacement des équilibres physico-chimiques et les océans ont tendance à être plus acides. Alors, est-ce que c'est grave ou pas que les océans sont plus acides ? En fait, les organismes qui fixent le calcaire, comme par exemple des petits mollusques qui ressemblent à nos escargots, hein, qu'on voit tous les jours, et ben dans ce cas-là, il y a des petits mollusques qui vivent, qui sont dans le plancton, et ben ils peuvent moins bien fixer le carbone, moins efficacement, et ils deviennent tout mous, en fait. C'est comme si leur coquille était tout molle. Donc, en fait, on modifie les écosystèmes, et les organismes qui y sont adaptés, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'adapter aussi rapidement, parce que de tout temps, en fait, il y a eu des variations climatiques et des variations physico-chimiques à l'échelle planétaire. En revanche, le problème, c'est l'accélération de cette modification des écosystèmes. Et donc, les organismes ne sont pas tous, la majorité, ne seront pas capables de s'adapter aussi rapidement.
Et quels sont ceux qui subissent l'impact le plus fort à l'heure actuelle ?
Alors, comme le problème, c'est que bah, on connaît pas la majorité de la diversité en fait de ce plancton, donc c'est un peu difficile de vous répondre là-dessus. Par contre, ce que je peux vous répondre, c'est et peut-être on n'arrivera jamais à la quantifier entièrement. Ça, c'est peut-être un fait. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est de regarder et de mettre en évidence qui sont les micro-organismes ou le plancton le plus impliqué dans la fixation de carbone et l'export d'oxygène. En gros, ceux qui nous intéressent personnellement. Donc, en ce moment, on a plein de nouvelles données qui arrivent avec ces expéditions. On a des données de différentes natures aussi, c'est très complexe. On a beaucoup de données qu'on dit moléculaires, c'est-à-dire c'est de l'ADN. Parce que maintenant, on peut séquencer beaucoup d'ADN et ça coûte moins cher. Par exemple, votre génome humain, vous pouvez l'avoir pour 3000 euros, donc en gros, le prix d'une voiture, bref. Mais là, c'est pareil en fait pour les océans. On peut avoir l'ensemble des microbes qui y sont, ce qu'ils y font, et essayer justement de déterminer qui sont les espèces clés de voûte qui vont être le plus impliquées dans la production d'oxygène encore voilà, et la fixation de carbone. On essaie de trouver des sentinelles comme ça et de les suivre. Ça, c'est le but de ces expéditions, par exemple.
Est-ce que vous voulez poursuivre ? Est-ce que vous avez encore une photo ou peut-être une image à nous faire partager ?
Du point de vue de l'émotion, j'ai un peu évoqué déjà avant, mais c'est la richesse en fait, des intervenants en tout cas de ce projet que j'ai trouvé en tout cas incroyable. On va avoir différentes nationalités. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, ça va être... Donc, c'était il y a quelques années. Voilà, j'étais plus jeune. J'ai rencontré une Argentine qui était à bord en même temps que moi. On n'avait pas la même culture. On parlait pas la même langue. Je parlais pas espagnol, par exemple. Et on a échangé. Et c'est vraiment une grande richesse de voir comment est-ce qu'on fait. On fait de la science, mais là, on fait de la science un peu différemment. Et ça a permis énormément de rencontres. Et on est toujours en contact actuellement, même une dizaine d'années après... C'était une grande richesse et une grande émotion. Et j'ai juste, pour vous illustrer les résultats qu'on obtient, actuellement, je vous ai dit, on essaie de chercher des sentinelles pour savoir, par exemple, qui est le plus impliqué, par exemple, dans l'export de carbone. Et donc, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années, en 2016. J'ai participé à ce travail. Ce qu'on essaie de faire avec toutes les données qu'on a, on essaie de comprendre et de construire un réseau. Les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde voit à peu près ce que c'est, je pense. Plus on a de données, en fait, et plus on peut construire en fait, des réseaux. C'est-à-dire, sur ces réseaux, les points, c'est les acteurs, et les liens, c'est les interactions. Donc en fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec les données de l'océan. Qui sont les acteurs ? Qui sont les acteurs les plus centraux qui vont se retrouver à être le lien le plus important entre d'autres acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui sont plus importants que les autres, parce qu'ils échangent plus, parce qu'ils sont plus en symbiose, etc. C'est ce qu'on fait actuellement... avec les données scientifiques qu'on obtient.
Et si d'aventure me venait l'envie à moi de participer à une expédition de ce type, est-ce que ce serait possible ou pas ?
Je pense qu'en tant que journaliste, oui. faudrait contacter évidemment la Fondation Tara. Ensuite, il y a une question que j'ai souvent eue, c'était est-ce que c'est dur de monter à bord, justement, parce que ça te donne envie, ça fait rêver. Mais en fait... ça se fait par les échanges, effectivement. Et puis, par contre, il y a quand même une certaine sélection qui se fait naturellement, parce que tout le monde n'a pas envie de vivre à 15, dans un petit bateau avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais en général, voilà, tous les gens qui sont à bord, ils sont très motivés et c'est des souvenirs incroyables. De science, mais pas que, en tout cas.
Et vous comptez repartir bientôt ? C'est dans les tuyaux ?
J'espère. Alors, en ce moment, je suis un peu dans une autre phase parce que j'ai des enfants, etc. Mais quand ils seront un peu plus grands, évidemment, j'aurai plaisir de retourner sur le terrain.
Et peut-être d'embarquer avec eux, qui sait ?
Ils sont déjà montés à bord. Parce qu'avec Tara peut être souvent à quai, par exemple, à Paris ou à Lorient, etc. Donc ils sont montés quelques fois à bord. Ils ne se rendaient pas bien compte, mais...
Très bien. Bah, Lucie, merci infiniment pour cette conférence et d'avoir participé aujourd'hui, cette édition 2021, de la Fête de la Science. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.